Chapitre 2. L'arrivée du duc de Nauruz à Varanges avait mis toutes les cervelles en travail et tous les intérêts en jeu. Il semblait que le commerce allait prendre un développement considérable, que la fortune du pays était faite et qu'on allait revoir les beaux temps du marquis. Ce n'est pas impunément qu'un pays vit pendant plusieurs années des bénéfices de la domesticité. Mais il avait fallu bien vite en rabattre de ses beaux calculs. Lorsque le vieux Camoin avait raconté son premier entretien avec son jeune maître, ça avait été une véritable stupéfaction dans le pays. Le matin, j'entre dans la chambre de Monsieur le Duc et ça me rend tout guilleré de voir le lit occupé. Vous pensez, ça me reporte à plus de 40 ans en arrière. Je m'imagine que c'est Monsieur le Marquis qui dort là, dans les rideaux en point de Venise. Et c'est lui, en effet, mais plus jeune et cependant avec aussi grand air. Qu'à moins, qu'il me dit, j'ai à causer avec vous. Vous êtes ici depuis plus de 40 ans, vous aviez la confiance du marquis de Varanges, c'est une raison pour que vous ayez la mienne et vous l'avez entière. Hein, c'est parler, ça. Là-dessus, je le remercie comme il convient et il continue. Je vais faire un séjour ici qui sera de plusieurs années peut-être. Je n'amène avec moi personne de Paris. Je compte donc sur vous pour me trouver les gens nécessaires à mon service. C'est facile, monsieur le duc, que je lui réponds. J'ai un neveu cocher à Marseille et un cousin maître d'hôtel à Nice dont je suis sûr. Pour le cuisinier chef. Mais voilà qu'il m'interrompt en souriant. Pas si vite, il ne me faut ni cocher, ni maître d'hôtel, ni cuisinier chef, attendu que je viens ici pour travailler, non pour m'amuser. Les seuls gens dont j'ai besoin sont une simple cuisinière et un garçon pour nous servir, mon secrétaire et moi, de façon à ce que vous ne vous fatiguiez pas. Vous pensez, les bras m'en sont tombés du corps. Ah, ce n'était plus monsieur le marquis. Comment ? Le duc de Nauruz venait à Varanges pour travailler, non pour s'amuser, recevoir et donner des fêtes. Ah, ça, c'est donc un faux duc, et il avait donc volé son héritage. Pas de cocher, pas de cuisinier, c'était à faire pitié. Bientôt, on avait eu l'explication de ce mystère. Par M. Vidal, le notaire, on avait su que le duc était pourvu d'un conseil judiciaire. Quelle honte pour le pays! Et il travaillait, un duc? À quoi travaillait-il? C'était peut-être pour vivre? Là-dessus aussi, Camoin avait raconté des histoires bien curieuses. D'ordinaire, n'est-ce pas, c'est le maître qui dicte à son secrétaire. Eh bien, chez nous, c'est tout le contraire, c'est le secrétaire qui dicte au maître. Et pas doucement encore. Du temps de monsieur le marquis, ça ne se serait point passé comme ça, mais présentement, le respect est perdu. Je vous dis qu'il est perdu. Ce n'est pas un méchant homme, ce secrétaire, ce monsieur Crozat. Habituellement, il est poli avec tout le monde. Et puis, il chercherait plutôt à vous éviter du dérangement qu'à vous en donner. Eh bien, avec monsieur le duc, ça n'est plus ça. Pas poli du tout, au moins quand ils travaillent ensemble. C'est dans la bibliothèque qu'ils travaillent. Monsieur le duc s'assied devant une table vis-à-vis de la fenêtre et monsieur Crozat se promène d'un bout à l'autre tenant un livre à la main et dictant des mots dans une langue que je ne connais pas. C'est, je crois bien du latin, parce que j'ai entendu plusieurs fois « Deus, Dominus », des paroles de la messe. Monsieur le duc écrit, mais il y a des moments aussi où il s'arrête et où il reste à regarder par la fenêtre, comme si le secrétaire ne dictait pas toujours. « Eh bien, dit monsieur Crozat. Ah, c'est vrai, répond monsieur le duc, je m'oublie à regarder le ciel et les bois. Il est curieux que pour un homme né à Paris, j'éprouve tant de bonheur à me perdre dans le ciel bleu. Un Provençal ne serait pas plus amoureux que moi de ce beau climat. Ce n'est pas de la rêverie, de la distraction qu'il nous faut, dit le secrétaire, c'est de l'application. Allons, allons, au travail. » « Et savez-vous ce qu'il ajoute, ce secrétaire, en parlant à son maître, à un duc ? Je vous le donne en mille. Savez-vous comment il l'appelle, et sans se mettre en colère, doucement, comme pour l'encourager ? Vous ne devinez pas ? Eh bien, il appelle « animaux ». Comment animaux ? Vous voulez dire animal ? Je vous dis « animaux ». Croyez-vous que je n'ai pas des oreilles pour entendre ? Deux fois, trois fois, il lui dit « Macté animaux ».« Macté », je ne sais pas ce que ça signifie, mais « animaux », il me semble que c'est clair. Chacun comprend ça. Ah, vraiment, le respect est perdu. Cependant, le temps de Roger n'était pas pris par le travail du matin au soir. Il y avait des heures dans la journée, tantôt à midi, tantôt le soir, selon les saisons et l'ardeur du soleil provençal, où il sortait pour faire de longues promenades, soit dans la campagne, soit dans la forêt. Le matin, en quittant sa chambre, il descendait à la bibliothèque, où il trouvait installé depuis longtemps déjà Crozat, qui avait toujours été un de ces puissants travailleurs du matin, pour lesquels les journées sont doubles. Sur un guéridon, Camoin avait servi un morceau de pain, une bouteille de vin blanc, des fruits frais ou des raisins secs avec des amandes, tous produits de la terre de Varage. Le maître et l'élève mangeaient une croûte, buvaient un verre de vin tout en causant affectueusement, puis le travail commençait et se continuait sans repos jusqu'à l'heure du déjeuner, coupé de temps en temps par un de ces « mactés animaux » qui avait si fort scandalisé le vieux Camoin. Le déjeuner ne les retenait pas longtemps à table. Un plat de viande, un plat de légumes, quelques fruits, et c'était tout. Alors Roger prenait un bâton ou un fusil et s'en allait droit devant lui pendant 2 ou 3 heures. Pendant les premiers jours, Crozat l'avait accompagné, mais bientôt celui-ci avait renoncé à ses promenades. Il n'avait point les goûts provençaux du duc. Le terrible soleil du midi le mettait en eau. Le mistral l'horripilait, la poussière l'aveuglait. Il aimait mieux rester enfermé dans la bibliothèque dont il avait entrepris le catalogue. Malheureusement, il avait une manière de faire ce catalogue qui ne lui permettait pas d'aller vite. La bibliothèque du château de Varage était riche en anciennes éditions. Il y avait là des livres sur la chevalerie d'Antoine Vérard, des éditions d'auteurs latins de Simon de Colline et des Étienne, des Elzevier en grand nombre. Crozat prenait un de ces livres, l'ouvrait religieusement, en admirait le titre, puis, tournant les feuillets, il se mettait à lire, et, une fois qu'il avait commencé, il ne s'arrêtait plus, le catalogue était oublié. Tout d'abord, Roger avait fait ses promenades à pied, ce qui permettait d'aller à l'aventure, au hasard de la flânerie, marchant vite, marchant doucement, s'arrêtant pour causer avec un paysan dont il écoutait le provençal en souriant, comme s'il le comprenait, bien qu'il n'en sût pas un mot. Mais un jour à Marseille, il avait trouvé, attelé à un fiacre, un cheval de pur sang nommé Balaclava, qu'il avait monté autrefois à Longchamp et à Chantilly, et il l'avait acheté pour une somme modique. Puis, après l'avoir mis en état par des soins et une nourriture convenable, il s'était amusé à le dresser aux obstacles sur une piste qu'il avait aménagée dans une prairie, et alors il avait souvent fait de longues courses par les bois et les champs, passant bravement à travers tout, au grand ébahissement des paysans, étonnés de son audacieuse témérité et émerveillés de son habileté quand il savait ce que c'était que monter à cheval. Mais si emporté qu'il fût par ce besoin de se dépenser qui était le fond même de sa nature, il n'oubliait pas l'heure du travail et, au moment fixé, Crozat le voyait revenir prendre docilement sa besogne d'écolier. Il était bien un peu essoufflé, ses mains tremblaient, mais peu à peu l'apaisement se faisait et le travail continuait jusqu'au dîner. Alors, bien souvent, le dîner fini, quand Roger n'éprouvait pas le besoin d'un galop à travers bois, il s'asseyait sur la terrasse et, par ses belles soirées du midi, dans le silence de la nuit, doucement caressé par la brise, toute chargée du parfum des bois et des fleurs, suivant des yeux le vol des lucioles, il restait à causer, et Crozat, non plus par les livres, mais par des discours pleins d'intérêt, tantôt sur un sujet, tantôt sur un autre, hâtait cette éducation qu'il se faisait alors inconsciemment, en se jouant, plus rapide et plus solide en quelques heures de conversation, qu'elle n'eût pu l'être dans un travail appliqué et continu.